conte de Charles Dickens. Le spectre de l'art. Je suis célibataire et j'habite deux ou trois petites pièces au temple. Elles donnent sur une petite cour entourée de hautes maisons. Et n'était le manque d'eau et l'absence de seau et de la corde, on se croirait au fond d'un puits. Je vis tout à fait dans le haut de la maison, au milieu des ardoises et des moineaux. Ai-je besoin d'ajouter, après cela, que je suis amoureux et que le père de ma bien-aimée Julia s'oppose à notre bonheur? Tout ceci est pour mettre le lecteur au courant de ma situation personnelle. C'est comme une lettre d'introduction. Maintenant, il voudra bien peut-être écouter ce que j'ai à lui raconter. Je suis d'un naturel rêveur. Et mes nombreux loisirs et l'habitude de passer quelques heures à écouter le gazouillement des moineaux ou le clapotement de la pluie qui tombe sur les toits ont encore augmenté cette disposition. Dans ma position élevée, j'entends le vent mugir les soirs d'hiver, alors que le locataire du rez-de-chaussée se figure qu'il n'y a pas un souffle d'air. Les lampes fumeuses, grâce auxquelles notre honorable compagnie, qui ignore encore la découverte du gaz, rend visible les horreurs de l'escalier, contribue encore à épaissir le voile de tristesse qui s'étend sur mon âme lorsque je rentre le soir. Ma profession m'attache à la basoche, mais au fond, je n'en suis pas, sans savoir à quoi cela tient. Il m'arrive quelquefois de siéger en robe à Westminster, de 10h du matin à 4h du soir. Et quand je sors de là, je ne sais plus si je marche sur la tête ou sur les pieds. Il me semble, gardez-moi le secret, qu'il se débite là bien des paroles inutiles. Et que, si tant est que, dans tout ce fatras, il y ait quelques grains de vérité, ils sont noyés dans un déluge de blagues. Je veux bien que tout cela ait contribué à m'exalter l'imagination. Cependant, je suis bien certain d'avoir vu et entendu ce que je vais vous raconter. Il faut, pour l'intelligence de mon récit, que je confesse mon goût pour la peinture. Sans peindre moi-même, je suis fanatique de cet art, sur lequel j'ai beaucoup écrit. J'ai vu tous les plus beaux tableaux du monde. Mon éducation et mes lectures ont été assez complétées pour que je ne me sois trouvé suffisamment préparé et familiarisé avec la plupart des sujets qui pouvaient séduire un peintre. Et si, par exemple, je n'ai pas une idée bien nette sur la forme exacte du fourreau du sabre du roi Lear, je crois qu'au moins je n'hésiterai pas à reconnaître le roi Lear lui-même s'il m'arrivait de le rencontrer. Je ne me manque pas une de nos expositions. Et je révère l'Académie royale. Les 40 articles de ces statuts me sont aussi sacrés que les 39 de l'Église d'Angleterre. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une lettre à ajouter ou à retrancher. Il y a 3 ans, exactement 3 ans, jour pour jour, un jeudi, j'allais dans l'après-midi de Westminster au temple par bateau. Le ciel était très chargé lorsque j'eus l'imprudence de m'embarquer. Bientôt, le tonnerre gronda, les éclairs sillonnèrent le ciel, et la pluie commença de tomber à torrents. Le pont n'était plus tenable. Je descendis dans l'entrepont. Mais là, il y avait un tel encombrement, tant de gens qui fumaient, que je n'y puis tenir. Je remontai, et boutonnant mon paletot, m'appuyant contre le tambour de la roue et me tenant aussi droit que possible, j'attendis patiemment la fin de l'orage. C'est à ce moment que j'aperçus pour la première fois l'être terrible qui est l'objet de mon récit. Debout contre la machine, comme si son intention avait été de se sécher à mesure qu'il se mouillait, les deux mains dans ses poches, se tenait un homme à l'aspect misérable, vêtu d'un vêtement noir, râpé. Dès l'instant que mes yeux l'aperçurent, je ne pus les détacher de cette figure étrange. J'étais fasciné. Où avais-je donc vu, déjà, ces yeux-là ? Qui était-ce ? Pourquoi cet homme me rappelait à la fois le vicaire de Wakefield, Alfred le Grand, Gil Blas, Charles II, Joseph et ses frères, Tom Jones, le Décaméron de Boccace, le mariage du Doge de Venise avec l'Adriatique et la grande peste de Londres. Pourquoi, quand il pliait une jambe ou qu'il appuyait une main sur le dossier d'une chaise placée auprès de lui, ma vue se troublait-elle, si bien que je croyais voir la petite bande de papier qui porte le numéro d'ordre, numéro 142. Un portrait d'homme ? Est-ce que par hasard, je devenais fou ? Je le regardais encore, et j'aurais été prêt à jurer qu'il était bien de la famille du vicaire de Wakefield. Que ce fût le vicaire, ou Moïse, ou Mr. Bashill, ou Lakir, ou un étrange composé des quatre, je n'aurais su le dire, mais j'étais pris d'un désir fou de lui sauter la gorge et de l'obliger à m'avouer qu'il avait du sang des primroses dans les veines. Il leva les yeux au ciel, comme pour interroger les nuages. Grand Dieu ! C'était Saint-Jean. Il croisa les bras, comme résigné au temps qu'il faisait. Alors, j'étais tenté de l'interpeller et de lui crier. « Oh, spectateur ! Qu'as-tu fait de Roger de Coverley ?» Et l'horrible soupçon, que j'étais en train de perdre la tête, me revint avec une intensité douloureuse. Pendant ce temps, l'étrange personnage, lié d'une façon si inexplicable à mon malheur, continuait à se sécher. Et au milieu de la fumée qui se dégageait de ses vêtements trempés, dans cette brume mystérieuse, je voyais passer, comme des spectres, tous les personnages que j'ai déjà cités. Et d'autres encore, et sacrés, et profanes. Je me souviens de la terrible tentation qui me vint, au milieu du tonnerre et des éclairs, de saisir cet homme et ce démon, de le précipiter dans les flots. Mais je me contins, je ne sais comment. Et ne pouvant plus supporter plus longtemps cette poignante incertitude, résolu de m'éclairer à tout prix, et l'orage se calmant un instant, je traversai le pont et, me dressant devant lui, « Qui êtes-vous ? » lui dis-je. Une voix rauque me répondit. « Un modèle. »«
Un quoi ? » repris-je.
« Un modèle. Je pose à 2 francs l'heure. » Je m'efforcerai, autant que possible, dans le cours de ce récit, de reproduire exactement ces paroles qui sont fixées d'une façon indélébile dans ma mémoire. Il m'est impossible de décrire l'exquise sensation de délivrance que cette révélation me fit éprouver. Non, non, je n'étais pas fou. Je me serais jeté à son cou si je n'avais craint d'étonner l'homme qui était à la barre.
Quoi ?
M'écriai-je, lui serrant si fortement la main que je fis sortir en la tordant toute l'eau qui était restée sur la manchette de son habit. Vous êtes le monsieur que j'ai si souvent contemplé et qui est inséparable dans mon esprit d'un fauteuil à haut dossier, d'un coussin de velours rouge et d'une table à pied or. Je suis ce modèle, reprit-il. Pour mon malheur, je voudrais bien ne pas l'être.
Ne dites pas cela, repris-je.
De quoi vous plaignez-vous ? Ne vous ai-je pas souvent vu en compagnie de bien belles personnes ? Et c'était vrai.
Je m'en souviens très bien maintenant, prenant des pauses pour faire valoir ses jambes.
Sans doute, dit-il. Et vous m'avez vu, entouré de gerbes de fleurs, au milieu de riches cristaux, de cabinets anciens.
Un tas de blagues.
Monsieur ! M'écriai-je. « De la blague, toujours de la blague » répéta-t-il d'une voix plus haute.
et vous auriez pu me voir aussi sous l'armure, si vous aviez mieux regardé. Je veux être pendu si je n'ai pas posé dans la moitié des armures qui sont sorties de chez Pratt. J'ai posé des semaines sans manger, devant toute la vaisselle plate des stores, des Mortimer, des Garrard ou des Davenport. » Dans sa fureur, je crus qu'il n'arriverait jamais au bout de ce dernier mot. Enfin, pourtant, sa voix s'éteignit, dans un dernier roulement de tonnerre. « Je vous demande pardon, » lui dis-je. « Vous êtes un bel homme, très bien fait. D'où vient donc, je ne sais comment rendre mon impression, que je vous associe, enfin que mon imagination vous représente comme quelque monstre puissant. Il n'y a rien là-dedans d'étonnant, » dit-il. « Savez-vous ce qu'il y a de mieux chez moi ?»«
Non.
Le cou et les jambes. Quand je ne pose pas pour la tête, je pose pour le cou ou les jambes. Eh bien, admettez que vous soyez peintre et que vous travaillez mon cou pendant plus d'une semaine. Est-ce que vous n'y découvririez pas un tas de bosses et de creux que vous n'y auriez certainement pas vu si vous n'aviez regardé à l'ensemble ? Au lieu de n'en regarder que mon cou. Voyons, n'est-ce pas vrai ?
C'est possible, dis-je en l'examinant.
C'est inévitable, reprit le modèle. Et si vous travaillez mes jambes, 8 jours, vous arrivez au même résultat. Vous finirez par les faire si noueuses, si raboteuses, qu'elles ressembleront plutôt au tronc de 2 vieux arbres. Si alors vous attachez mes jambes et mon cou au torse d'un autre homme, vous aurez un véritable monstre. C'est grâce à ce procédé que le public obtint tous les monstres qu'il peut admirer le premier lundi de mai, le jour où l'exposition de l'Académie royale ouvre ses portes.
« Vous êtes un fin critique, » dis-je avec un air de déférence.
« Je suis d'extraordinairement mauvaise humeur. Voilà ce que je suis. Si c'est cela que vous appelez être un critique, » reprit le modèle avec un accent indigné. Comme si ce n'était pas assez dur de poser avec un vieux chapeau graisseux, un manteau rapiécé et un tambourin sur les rives de la baie de Naples, avec un Vésuve sacramentel qui vous fume dans le dos et des vignes magnifiques qui s'entrelacent au second plan, ou bien encore de lever les jambes en l'air au milieu d'un tas de filles, sans aucune raison que celle de les montrer. Comme si tout cela n'était pas assez dur. Il faut encore se voir mettre de côté.
« Ce n'est pas possible !» m'écriai-je.
« C'est comme cela, cependant, » reprit le modèle indigné. « Mais je la laisserai pousser. Je n'oublierai jamais l'accent désespéré et menaçant avec lequel il prononça ces derniers mots. Je sentis mon sang se figer. Je me demandais ce que cet être désespéré était décidé à laisser pousser. Et je ne trouvais pas de réponse à ma question. J'essayais d'obtenir une explication. Mais avec un rire guttural, il murmura cette sombre prophétie. « Je la laisserai pousser, et souvenez-vous de ce que je vous dis. Elle vous hantera. » L'orage redoublait. Nous nous séparâmes. Mais pas avant que je ne l'eusse forcé d'accepter une demi-couronne. Je fus toujours persuadé que quelques événements surnaturels avaient dû arriver au bateau qui emportait cet étrange personnage, bien que les journaux n'en aient rien dit. 2 ans se passèrent sans événements marquants. Vers cette époque, je rentrais un soir chez moi lorsque je fus pris par un orage comme celui que j'avais essuyé sur le bateau. Mais cet orage, éclatant à minuit sur la ville endormie, était d'autant plus effrayant. Comme j'arrivais devant ma porte, il eut un tel coup de tonnerre que je crus que la foudre allait tomber à mes pieds. Chaque brique, chaque pierre renvoyait un écho. Les gouttières débordaient et la pluie tombait à flots du toit des maisons. Mrs. Parkins, ma blanchisseuse, qui est la femme de Parkins, le portier, ou plutôt sa veuve,
car il vient de mourir d'hydrophysie, à l'ordre de toujours mettre un bougeoir sur le palier, afin que je puisse l'allumer à la lampe de l'escalier, pour ne pas rentrer dans l'obscurité. Mais Mrs. Parkins oublie invariablement mes ordres, et le bougeoir n'est jamais là. Ce qui fait que ce jour-là, je dus rentrer à tâtons jusque dans le salon pour prendre le bougeoir et ressortir pour l'allumer. Quelle ne fut pas ma surprise quand, sous la lampe de l'escalier, aussi mouillé que s'il n'avait jamais séché depuis notre dernière entrevue, j'aperçus l'être mystérieux que j'avais rencontré il y a 2 ans sur le bateau par un jour d'orage. Sa prédiction me revint en mémoire et je me sentis défaillir. « J'avais dit que je le ferais !» dit-il d'une voix sourde. « Et je l'ai fait !» Puis j'entrai. « Mes pauvres créatures égarées, qu'avez-vous fait ? » m'écriai-je. « Je vous le dirai si vous me faites entrer !» répondit-il. Avait-il commis un crime ? Assassiné ? Et, encouragé par l'impunité, voulait-il recommencer à mes dépens ? J'hésitais. « Puis j'entrai ? » répéta-t-il. J'inclinai la tête, en prenant sur moi autant que possible, et il me suivit dans mon appartement. Là, je m'aperçus que toute la partie inférieure de son visage était entourée d'un grand foulard. Il le retira lentement et découvrit une longue barbe noire qui prenait naissance au-dessus de la lèvre supérieure, se tordait au coin de la bouche et pendait sur sa poitrine. « Qu'est-ce que cela ? » m'écriai-je involontairement. « Et qu'êtes-vous devenu ?»« Je suis le spectre de l'art, » dit-il. Ces mots, prononcés à cette heure, au milieu du bruit du tonnerre, du flamboiement des éclairs, avaient quelque chose d'effrayant. Plus mort que vif, je l'examinai en silence. « Ah ! C'était le goût allemand qui l'emportait !» s'écria-t-il. « Qui me privait de mon gagne-pain !» « Eh bien, à moi maintenant, je suis prêt !» Et passant ses mains dans sa barbe, la hérissant un peu, il croisa les bras et dit « La sévérité !» Je tressaillis à l'aspect de ce visage sombre. Il étala sa barbe sur sa poitrine et, s'appuyant des 2 mains sur un manche à balai que Mrs. Parkins avait oublié là, il dit « La bienveillance !» J'étais pétrifié. Le changement d'expression résidait tout entier dans la barbe. L'homme aurait pu laisser sa figure immobile, ou même n'en avoir pas. La barbe faisait tout. Il s'étendit sur le dos sur ma table, et dans ce mouvement de la tête, la barbe remonta légèrement sur le menton. « La mort !» dit-il. Il se releva alors, et regardant le plafond, rejetant sa barbe un peu de travers, et en même temps la faisant pointer en avant, « L'adoration !» ou « Une promesse de vengeance !» Se tournant de profil et me présentant une lèvre épaisse, garnie d'une moustache à tout crin, « Un personnage romantique !» Jetant de côté un regard oblique, par-dessus une barbe en broussaille, « Voilà la jalousie !» dit-il. Ou encore, la retroussant d'un geste ingénieux, il se donnait un air de matamore. Il l'étira en fleuve. C'était le désespoir. Allongé et rare, c'était l'avarice. Ébouriffé dans tous les sens, c'était la rage. Et toujours la barbe toute seule. « Je suis le spectre de l'art, » répéta-t-il, à 2 francs l'heure. « Plus elle est longue, plus c'est cher. » Ah, la vraie expression n'est que dans les cheveux. Ah, il n'y en a pas d'autre. J'avais dit que je la ferais pousser, et je l'ai fait, et elle vous hantera. Comment était-il sorti ? Était-il tombé dans l'obscurité de l'escalier ? Je suis certain de ne pas l'avoir vu descendre. Je regardais par-dessus la rampe. J'étais seul. Je n'entendais plus que le roulement du tonnerre. Ai-je besoin de rien ajouter à ce récit ? Faut-il que j'avoue que depuis cette heure, je n'ai cessé d'être hanté
par cette vision. Ce spectre flamboie sur les murs de l'Académie royale, excepté toutefois quand le génie de Maclis le met en fuite. Il m'emplit l'âme de terreur quand je suis au British Museum. Je sens qu'il conduit les jeunes artistes à leur perte. En quelque lieu que j'aille, je suis poursuivi par ce fantôme qui reproduit toutes les passions, qui exprime tout avec la barbe. La prédiction est accomplie. Hélas, et la malheureuse victime n'a ni trêve, ni merci.